De retour aux amateurs, donc, du hockey ce soir. Match numéro 2 de la série entre les Blues et les Sharks. Premier match à presque à sens unique, remporté par les Sharks 6-3. Hier, Boston qui prend les devants 2-0 dans sa série contre les Hurricanes en vertu d'une victoire de 6-2. Et le fait que beaucoup d'amateurs de sport parlent surtout de la victoire des Raptors hier, est-ce une indication que finalement les premiers matchs des finales de conférence n'ont pas été à la hauteur en termes de divertissement? Accueillons Mario Tremblay. Bonsoir Mario.
Oui, bonsoir Mario.
Est-ce que tu es un peu déçu du début des séries finales de conférence?
Ben un petit peu oui, un peu comme tout le monde. Écoute, je m'attendais justement, si on parle de la série Boston-Caroline, tu sais, on regarde ça, Boston a marqué 11 buts pour, en a alloué seulement 4. Puis définitivement, on voit que Tuukka Rask est nettement supérieur à Mrazek du côté de la Caroline. J'ai hâte de voir quelle décision va prendre dans le prochain match l'entraîneur-chef des Hurricanes. Est-ce qu'il va continuer avec Mrazek ou il va y aller avec McKelney? Ça sera une décision à prendre parce que dans le dernier match, Mrazek a un pourcentage d'arrêt, mon cher Mario, de 760. Alors, on voit bien.
Tu ferais quoi, toi, Mario?
Ben, moi, j'irai avec. Il va y avoir deux possibilités. Ou il va ce soir avec, c'est-à-dire dans le prochain match avec Mrazek. Et si Mrazek donne un ou deux buts rapides, bang, on change, on y va pour McKelney. Ou moi, personnellement, si j'étais l'entraîneur, je prendrais pas de chance parce que lorsque McKelney a remplacé Mrazek lorsqu'il s'est blessé, a fait le travail, il avait très, très bien joué devant le filet des Hurricanes.
C'est peut-être le temps d'utiliser ton releveur, quitte à revenir avec Mrazek, parce que dans le fond, c'est McKelney qui a fini la série en deuxième ronde. On a donné le filet à Mrazek, mais là, c'est pas concluant.
Parce que c'est de valeur, parce que dans le match numéro 2, la Caroline, quand même, la première période, était dans le match, là, mise en échec, on patinait bien, mais aussitôt que les Blues de Boston ont inscrit le premier but, bang, on aurait dû que du côté de la Caroline, on a vraiment perdu confiance. Alors peut-être qu'en amenant un changement de gardien de but, ça pourrait peut-être donner un nouveau signal, si tu veux, aux Hurricanes, parce que là, présentement, contre les Blues de Boston, ils ne sont vraiment pas dans le coup.
C'est sûr que si on se fie au match d'hier, là, t'as l'air d'avoir deux équipes de calibre différent. J'ai l'impression que les Hurricanes, quand même, peuvent ramener ça à 2-2 lors des deux premiers prochains matchs à domicile, avec un petit peu plus de discipline également. Je pense pas qu'ils ont été aussi concentrés dans ces deux premiers matchs-là qu'ils l'ont été dans les deux premiers rondes. Même Justin Williams en parlait, qu'il s'en voulait un peu d'être embarqué dans le jeu de Brad Marchand, là.
Un joueur d'expérience comme Williams embarqué dans le jeu de Marchand, moi ça m'a déçu parce que je pense que Justin Williams a assez d'expérience pour ne pas justement embarquer dans cette danse-là avec Brad Marchand. Et puis d'autant plus dans le cas de Brad Marchand, les Blues gagnaient ce match-là. Alors il aurait pu garder une petite gêne là pour commencer pour arrêter ses singeries au cours de la rencontre. Alors tu sais des fois Brad Marchand on l'aime ou on l'aime pas, on le prendrait notre club c'est sûr là. Mm-hmm. Mais des fois je pense qu'il manque vraiment là de jugement un peu dans son cas. À lui, là.
Ouais, mais les Hurricanes, comme équipe d'hockey, si McKelney ou Mrazek faisaient arrêt, les voitures venaient? Les voitures
bondaient? Oui, bondées? Ben écoute, ils l'ont fait dans la.
Mais c'est pour ça que je ne suis pas prêt à les éliminer tout de suite.
Moi non plus, je ne peux pas les éliminer tout de suite parce que jouer en Caroline, c'est pas facile. Là, présentement, ils vont jouer devant leurs partisans qui sont vraiment bruyants. Alors, non, je ne lâche pas la serviette du tout du côté de la Caroline. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être capables de au moins gagner le prochain match. Et par la suite, on verra si cette série-là va se rendre à 2-2 ou à 3-1 en faveur des Blues de Boston. Mais les Blues, Caroline, ils m'impressionnent. Ils travaillent tellement. C'est tout le monde, Mario. Des défenseurs frappent en avant du filet. Les quatre trios. Vous avez un apport là de offensif de tout le monde. Mais c'est de l'ardeur au travail qu'ils mettre les Blondes qui sont pas faciles à jouer contre. C'est chaque trio. J'ai vu avant hier, justement, ils montraient une séquence où les Blondes pratiquaient l'avantage numérique. Tu aurais dû voir l'intensité qu'il y avait là-dedans, dans cette pratique-là. C'est absolument incroyable. Alors, demandez-vous pas pourquoi les Blondes de Boston sont premiers en avantage numérique dans la Ligue nationale. Puis encore dans le match numéro 2, la Caroline sont 0-4. Alors, sont premiers en avantage numérique, premiers à désavantage numérique. Alors, c'est ce qui fait finalement le succès des Blondes de Boston. Faut pas se le cacher.
19 joueurs différents ont marqué au moins un but depuis le début des séries chez les Bruins de Boston. Tu sais, le fameux mot profondeur qui, des fois, veut dire ce qu'il regarde. Des fois, c'est un mot qui cache bien des réalités, mais en tout cas, là, tu peux certainement parler d'une grande profondeur chez les Bruins de Boston. Ça veut dire qu'à peu près tout le monde a contribué. Tu regardes la colonne des pointeurs des Bruins, là, tu sais, un gars qui a joué deux matchs, comme Camphor, par exemple, a un but. Tu sais, il y a des gars qui ont pas joué bien. Prends David Backes, il a joué 9 matchs, il a 2 buts, 3 passes. Ça veut dire que quand tu l'utilises, ben, il vient à bout de créer quelque chose.
Effectivement, puis c'est ça qui fait la... Tu sais, faut donner crédit aussi au directeur gérant Sweeney. Tu sais, quand il a remplacé Pete Chiarelli, on sait que Chiarelli, quand même, avait chaussé des gros souliers à Boston, là, mais juste avant son congédiement. Mais Sweeney a quand même a été capable de remodeler les Blues de Boston à la façon dont les Blues de Boston ont toujours été combatifs, agressifs, baveux, ils sont physiques. Alors, ça ressemble aux Blues de Boston des bonnes années, là.
Certainement, puis je faisais le même exercice vite fait pour voir combien de joueurs des Hurricanes ont marqué un but, tu vois.
Oui.
Il y en a 12 joueurs différents contre 19 pour les Bruins. Ben. Alors, ça ne dit pas tout, mais ça dit que chez les Bruins, il y en a pas mal de gars à surveiller. Ce soir, la série dans l'Ouest se poursuit entre les Sharks et les Blues. Et là, les Blues ont une occasion de mettre leurs pieds à terre dans cette série-là, dans le domicile des Sharks, puis ramener ça à Saint-Louis 1-1. Eux qui ont eu du succès sur la route, mais le premier match, c'était vraiment là un avantage Sharks.
Ouais, sans aucun doute, puis on regarde là, les Blues de Saint-Louis qui sont sortis quand même, je te dirais peut-être fatigués de cette série-là en 7 contre les Stars de Dallas. Mais encore une fois, les Sharks à domicile sont pas faciles à vaincre.
Non, non.
Ils ont une fiche de 7-2 dans les séries éliminatoires. Évidemment, c'est sûr que dans le cas des Blues de Saint-Louis, ils ont joué fort possiblement leur pire match des séries éliminatoires, des erreurs défensives, il n'y avait pas des erreurs mentales. Alors moi, j'attribue ça, Mario, à la fatigue. Mais là, attendez un peu, là, les Blues de Saint-Louis, ça serait pas trop facile non plus dans le prochain match de ce soir, parce que je pense que les Blues sont capables de remonter, ils l'ont prouvé dans le passé, mais il faut donner crédit également aux Sharks de San Jose. Tu sais, je voyais Brent Burns a joué 24 minutes 17, Eric Karlsson 26 minutes, Vlasic 21 minutes, mais c'est de la façon dont San Jose, leurs défenseurs, avec leur rapidité, sont capables de bouger la rondelle, de sortir la rondelle de leur territoire, et ce qui a mis un peu en trouble les Blues de Saint-Louis dans le match numéro 1, il n'y a pas de doute là-dessus. Là.
J'ai continué le même exercice dans l'Ouest, tu vois, de 12 gars différents qui ont marqué pour les Sharks en série et 16 pour les Blues. Mais tu as mentionné Brent Burns, puis on discutait de ça dans un corridor, puis on fait souvent allusion à Brent Burns parce que tu l'as connu personnellement pour l'avoir dirigé avec le Wild du Minnesota. Et veux pas, Doug Ricebrook n'a pas dû se féliciter bien souvent de cette transaction-là, Amir.
Je suis pas sûr que c'est Doug était là.
Ah, t'es pas sûr que c'était Doug, OK.
Je pense que c'est l'autre directeur gérant. Doug avait quitté. Mais effectivement, ça n'a pas été une bonne transaction pour le Wild du Minnesota parce que Brent Burns, là, malgré son allure, pas dedans, mais avec sa grosse barbe, il aime ça, je crois. Okay? C'est un pur sang. Et
24 juin 2011, lui, qui a fait ça, là.
C'est ça, nous, on était
partis. La transaction. OK, vous étiez plus là.
Doug était plus là non plus, non.
Fait que penses-tu que vous auriez graffiné, si on vous avait dit, si votre DG avait dit à Jacques et à toi, hey, on vous enlève Brent Burns, même si des fois, il était dans les moins aussi, là, tu sais.
Ben, mais oui, c'est sûr. Mais moi, je pense que vraiment, Burns a pris fort possiblement son envolé avec les Sharks de San Jose. Là. Il était correct à Minnesota, mais on ne pense pas que le Wild pensait qu'il était pour devenir le joueur aussi dominant qu'il l'est présentement avec les Sharks de San Jose. Mais c'est une, excuse-moi l'expression, là, c'est une grosse bête. Tu sais, il est 6 pieds 4, 6 pieds 5, il pèse 215, il patine comme le vent. Puis comme j'ai dit tantôt, il aime ça jouer au hockey. Puis c'est un bon coéquipier, Brent Burns aussi, là, pour ceux qui le connaissent pas. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, malgré son allure et tout le tralala, là, c'est une bonne personne, c'est un bon gars, puis c'est un bon coéquipier également.
Et à travers ça, dans nos temps libres, eh bien, compte tenu du fait qu'il y a un bon décalage horaire entre nous et l'Europe, la Slovaquie, pour être plus précis, ben, on a l'occasion de regarder des bouts de matchs ou des matchs au complet impliquant, entre autres, l'équipe canadienne au championnat du monde. Et je vais te dire une affaire, il n'y en aura pas de facile. Une victoire à l'arraché de 6-5 contre la Slovaquie aujourd'hui.
Wait, feed, Stone shoots, scores! Mark Stone with 2 seconds left! Scores the power play and Canada leads 6-5! Happy birthday, Mark Stone!
Et c'était son anniversaire aujourd'hui à Mark Stone. Je sais pas si tu as vu la séquence du but gagnant, on est en toute fin de match.
Oui.
Et mon doux qui était vraiment comme patient, mais presque trop patient avec la rondelle. Mm-hmm. Tu sais, au lieu de tirer 2-3 fois, avoir une chance de retour, ils se sont dit, on va en avoir un lancé, on le manquera pas. Pis c'est comme s'il avait lancé un dard direct à la bonne place, puis le Canada gagne aujourd'hui, Mario.
Ben, exactement. Pis c'est pas facile non plus, là, d'entrée de jeu, là, pour le début de ce tournoi-là, pour l'équipe canadienne. Moi, ce qui me surprend un petit peu, pardon. C'est de la façon dont l'équipe d'Alain Vigneault semble avoir de la difficulté à s'ajuster sur une grande patinoire défensivement. On donne beaucoup de chances de marquer, tu sais, la Slovaquie, c'est correct, mais c'est pas une puissance, là, de marquer 5 buts. Alors, on l'emporte 6-5, Donc, c'est pas facile pour le Canada. Alors, j'espère que pour l'équipe d'Alain Vigneault, puis je pense qu'il y a assez d'entraîneurs d'expérience derrière le banc de l'équipe Canada pour être capable d'apporter ces ajustements. Par contre, lorsqu'on regarde la défensive de l'équipe canadienne, il y a des ratés un petit peu, là. C'est pas tout des barbillons, là. Alors que je pense que les équipes adversaires également qui savent profiter de leur rapidité face à la défensive du Canada, je pense que là, c'est un des maillons de la chaîne de faiblesse du côté du Canada.
Ouais, puis j'ai oublié de revenir. Puis comme Philippe Quentin nous le soufflait également à l'oreille, je pense que c'est Chuck Fletcher qui a succédé immédiatement à Doug Riseborough.
Exact.
Donc, c'est lui qui doit porter l'odieux de la transaction de Brent Burns. Voilà.
C'est ça.
Mais quand je regarde, puis encore là, je précède toujours mon propos là-dessus, du fait que je veux pas amener ça sur un territoire politique, mais quand je regarde les championnats du monde, les championnats du monde junior, senior, je me dis, quand tu regardes la Slovaquie rivaliser avec le Canada, comme ça a été le cas, quand on se souvient d'équipes comme la Suisse qui ont déjà battu le Canada dans des tournois olympiques, j'aimerais donc ça voir une équipe Québec avec 20 gars de chez nous qui parlent anglais, français, peu importe, mais 20 Québécois par année, 22-23, participer à ces championnats du monde-là, puis je suis sûr qu'à un moment donné, on finirait sur un podium quelque part. Ça se peut pas quand tu regardes les petits pays avoir du succès. La Finlande, 5,5 millions d'habitants, ils gagnent chez les hommes, ils gagnent chez les juniors. Ils ont même gagné chez les femmes récemment, même si on leur a enlevé la victoire à cause d'une controverse, là. Mais en tout cas, je sais pas si t'aimerais ça, toi, voir les 20 meilleurs représentants du hockey québécois dans un tournoi comme ça.
C'est sûr que j'aimerais ça, Mario, voir les 20 meilleurs joueurs québécois, puis je pense qu'on ferait quand même très belle figure. Mais tu sais, ça fait juste te prouver au fil des ans, tu sais, on regarde la Slovaquie, recul de 10 ans passés, tu sais, n'était pas de calibre pour jouer dans ces tournois-là. Alors, c'est juste pour vous démontrer à quel point le hockey dans ces villes-là s'est amélioré. Puis c'est l'une des raisons pour laquelle, justement, là, tu sais, parce qu'avant, là, les championnats du monde, en fin d'année, c'était intéressant, comme ci, comme ça. Mais là, maintenant, là, avec les joueurs qui de la Ligue nationale qui participent à ça, alors je pense que ça fait du hockey beaucoup plus intéressant qu'il y a 10 ans passés. Sans aucun doute.
Ouais, ben c'est pas tout le temps les meilleurs qui sont là, mais ça reste des compétitions très intéressantes. Moi, j'y ai été une seule fois parce que la plupart du temps c'est en Europe, c'est quand ça s'est déroulé à Québec en 2008. Puis les gens de Québec en gardent un excellent souvenir de ce tournoi-là qui avait été remporté par les Russes. Regarde-tu un petit peu de hockey junior à travers ça, Mario?
Quand même intéressant de voir
que les meilleurs pointeurs des séries en Ontario au Québec sont deux gars qui appartiennent aux Canadiens, Joel Teasdale des Huskies de Rouyn-Noranda et Nick Suzuki du Storm de Guelph.
Suzuki connaît des séries vraiment extraordinaires. C'est absolument remarquable ce que ce jeune homme-là a fait depuis le début des séries. Il a 42 points en 24 matchs. Mais c'est incroyable comment il peut tourner sur un 10 ans, mais le talent qu'il a, la patience qu'il a avec la rondelle est tout simplement phénoménal. Puis c'est un petit guerrier, ça aussi. Oui, il est bon, là, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est sa force de caractère qui m'impressionne au plus haut point. Et encore une fois, là, on parlait
pas grand-chose qui semble l'énerver. On va parler à André Tournier tout à l'heure, qui vient de l'affronter en finale. Il avait parlé avant finale, il connaissait, mais là, il vient de l'avoir d'en face pendant 6 matchs. Fait que j'ai hâte d'entendre ses commentaires.
Ben, puis en plus de ça, j'aimerais ça aussi féliciter les Huskies de Rouyn-Noranda, là, qui ont gagné la Coupe du Président.
Oui.
Je pense que Mario Pouliot a fait vraiment un travail exceptionnel. Je l'ai rencontré, lui, lorsque j'ai été intronisé au Temple de la Renommée de la Ligue junior majeure du Québec à Québec. Et j'ai eu la chance de jaser un peu avec lui. Puis c'est un bonhomme qui m'a drôlement impressionné. Une bonne personne.
Oui.
Et j'écoutais les joueurs faire des commentaires à son endroit. C'est un bon communicateur. Un paquet de bonnes qualités. Alors, bravo à Mario Pouliot et son équipe des Huskies. Alors, on va leur souhaiter la meilleure chance pour la Coupe Memorial qui va avoir lieu à Halifax.
Juste pour te relancer rapidement sur les performances de Suzuki et sa production offensive, je vais emprunter à ce que RDS a présenté, notre ami Stéphane Leroux, tantôt. J'ai regardé ça, le tableau qu'il avait présenté. Mm-hmm. J'ai pas le nombre de matchs joués, mais je sais que Suzuki a joué plus de matchs que les autres. Mais juste pour nous donner une idée, tu vois, McDavid en 2015, les meilleurs pointeurs des séries des 10 dernières années, McDavid avait inscrit 49 points en 2015, Mitch Marner 44 en 2016, Suzuki en a 42 en 2019, Scheifele en avait 41 en 2013, et Matthew Tkachuk en avait 40 en 2016. Tu sais, ça donne Debrincat 38 en 2017. Tu sais, ça te donne une idée que les gars qui ont produit dans ces séries-là, généralement, ont eu des beaux débuts de carrière par la suite là, dans la Ligue nationale.
Non, puis il le mérite amplement, c'est sûr, comme j'ai dit tantôt, c'est tout un joueur de hockey. Évidemment, c'est pas nécessairement garanti de l'avenir, sauf qu'au moins, il monte les échelons une par une, puis je pense qu'il les fait très, très bien. Alors, j'ai bien hâte de voir comment il va se comporter à la Coupe Memorial, puis de le voir surtout aussi comment il va se comporter l'an prochain au camp d'entraînement du Canadien de Montréal.
Sur ce, mon cher Mario, un gros merci et une excellente soirée.
Monsieur Landois, toujours un plaisir. Bonne soirée à vous aussi.
Merci beaucoup, mon cher Mario. Bye-bye, à bientôt. Dans quelques instants, Philippe Quentin et justement André Tourigny vont suivre.